Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Pouéban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe?
Éternel Dieu, merci. Merci pour cette journée que tu nous as accordée encore. Merci pour la protection que tu as été pour nous. Merci pour la paix, la joie, l'amour que tu as été pour nous, Seigneur, toute cette journée durant. Nous voici encore réunis ce soir, Seigneur. Saint-Esprit, prends place maintenant, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle de toutes choses. Parle maintenant, Saint-Esprit, nous avons besoin de t'entendre. Que je sois simplement, Saint-Esprit, un canal que tu utiliseras pour répondre à quelqu'un ce soir. Un canal que tu utiliseras pour restaurer encore quelqu'un ce soir. Un canal que tu utiliseras pour ramener encore quelqu'un dans la présence de Dieu, dans la volonté de Dieu, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Inonde nos vies, manifeste-toi dans nos vies, Saint-Esprit, pour la seule gloire de Dieu. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Pourquoi et comment être une femme selon le cœur de Dieu? C'est le thème de ce soir. Et nous allons d'abord commencer par pourquoi être une femme selon le cœur de Dieu. Nous allons commencer par, avant l'étude de cas, je vais devoir vous demander... Comment est-ce que vous percevez cela? Comment? Ou selon vous, comment une femme peut être une femme selon le cœur de Dieu? Selon vous, on va commencer par les questions. Comment est-ce qu'une femme peut être une femme selon le cœur de Dieu? Il y a des pasteurs ici. Hein? Donc, je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions. Et quand il s'agit de parler devant les hommes de Dieu, là, ça fait le même effet que d'interpréter le premier jour. Oui? Pourquoi est-ce que les femmes s'adonnent plus à la religion? Je dirais, à mon avis, je l'écris. Bon, comme ce n'est pas dans le comment, je vais peut-être mettre ça à côté ici. Est-ce qu'il y a une autre question avant l'étude de cas? Oui, on y va. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Il n'y a plus d'autres questions. Moi, je dirais, à mon avis, que les femmes s'adonnent plus à la religion parce que les femmes sont trop sentimentales. Et nous... Nous aimons plus tout ce qui n'est que... Les femmes, excusez-moi, mais c'est la vérité. On aime trop la facilité des choses, la facilité de faire les choses. Et les femmes sont de véritables suivistes. On suit. Et en matière de discipline, les vrais rebelles, ce n'est pas les femmes, c'est les hommes. Parce que la femme ne réfléchit pas beaucoup. La femme ne fait pas trop d'efforts pratiques, mais elle fait beaucoup plus d'efforts en matière de théorie. C'est ça. C'est ça qu'on a dit de faire. On fait ça, point tiré. Mais pourquoi on a dit de faire? Ça, ce n'est pas la question de la femme. Donc, à mon avis, c'est parce qu'elles sont comme ça qu'elles ne s'adonnent pas trop aux enseignements. Et beaucoup de femmes se disent, l'enseignement se cache derrière le fait que lorsqu'on entend les enseignements, on est obligé de faire comme on a appris, de faire d'efforts. Et parce que nous sommes souvent, nous ne percevons que ce qu'on a, ce qu'on voit. Elles sont de l'autre côté où c'est la masse, c'est la loi, c'est la règle, à mon avis. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose d'autre à dire encore par rapport à ça, ou bien je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Pourquoi est-ce que la femme aime trop s'adonner? Vous avez fini votre question?
Non, c'est-à-dire que je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit.
Oui.
C'est-à-dire, quand moi j'ai commencé à réfléchir sur cette question-là, c'est-à-dire que j'ai fait le feedback. Je suis retourné dans le jardin d'Adam pour savoir pourquoi il y avait Adam et Ève dans le jardin. Et il paraîtrait que c'est Ève qui est partie manger le fruit, n'est-ce pas?
Oui.
Donc, si Adam et Ève étaient censés de rester dans le paradis et respecter les lois de Dieu, et que c'est la femme qui est la première qui est partie goûter le fruit parce qu'elle avait son instinct de chercher tout ce qui brille, la pousser à aller manger le fruit. Donc, instinctivement, la femme, elle est créée comme ça. Donc, elle a tendance toujours à ne pas suivre l'homme.
Ok, vous avez fini?
Oui.
Moi, je pense que la femme est de sexe faible. Et quelque part, la Bible dit de les ménager comme un sexe faible. Ce n'est pas forcément par rébellion ou par désir d'aller chercher ce qui brille que Ève est allée manger le fruit. Le diable, sachant que la femme est de sexe faible, ne pouvant pas résister à certaines choses, a voulu commencer par là. Et là, la femme avait même répondu, c'est le fruit défendu par Dieu. Et il lui a dit, mange, c'est parce que. Et lorsqu'il a dit, mange, c'est parce que, Ève a répondu, lorsque le Seigneur reviendra, il a dit, oui, c'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Donc, le fait de résister une première fois, une deuxième fois, ce n'est pas la rébellion, mais c'est le côté cesse faible. Et même, vous allez voir dans les études que les gens font souvent sur les femmes et sur les hommes, les femmes sont très émotives. Les femmes ne raisonnent pas comme les hommes. Et je crois que j'avais expliqué un peu dans un séminaire que lorsque tu demandes à une femme comment est-ce que tu as passé ta journée, au lieu de te répondre comme un homme, parce que si tu poses la même question à un homme, il te dira très bien, ou il te dira j'ai eu quelques difficultés en matière de tel ou tel, il est précis. Mais lorsque tu vois une femme le soir, ou ta femme, tu rentres le soir, tu lui dis comment est-ce que tu as passé ta journée, elle va te dire oui, le matin, c'est que, tu sais, quand tu es parti à peine là, ah oui, oui, après, j'étais allée dans la chambre et je crois que j'ai pris de l'argent, j'ai donné ça aux enfants. Elle te fait du racontage sur toute la vie sans être précise. La femme ne te dira jamais rien de concret. Mais les hommes, eux, ils fonctionnent, ils sont plus pragmatiques que les femmes. C'est Dieu qui a créé la femme ici et qui a créé l'homme ici comme un sexe faible. Et j'imagine que si Dieu a créé la femme comme un sexe faible, c'est pour ne pas aller à la rébellion contre Adam. Parce que si les deux étaient en fait des sexes assez forts, qui va peut-être obéir à qui? Parce que c'est de l'homme que la femme a été créée. Donc, quand vous regardez même dans le dispositif du monde, et tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un avant de venir, et je lui disais ça. Je dis, pendant la période précoloniale, quand il s'agissait de nos royaumes, les femmes, les reines, en fait, c'est les reines qui, normalement, étaient normées par le peuple, non le roi. Parce que les rois ne prenaient leurs décisions que lorsqu'ils écoutent leurs femmes. Et les femmes étaient au second plan à la maison, c'est le commencement des choses en fait. Vous allez voir que lorsque les femmes étaient là, mais parlaient avec, au roi avec sagesse, donnaient des conseils au roi avec sagesse, et le roi après prend l'information pour aller prendre des décisions plus tard, et on le voit que le roi, tout allait bien. Mais lorsque l'émancipation a commencé, la promotion du genre, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc les femmes, c'est des sages, c'est des gens qui suivent, c'est des gens qui obéissent. Très souvent, c'est plus facile pour une femme d'obéir à des règles données, des principes donnés à différents endroits que les hommes. Les hommes te demanderont, mais pourquoi? Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais comment ça? Moi, je pense que les femmes ne sont pas trop raisonnement. Oui, le micro, oui.
J'ai une question. Vous savez, très souvent, moi, je remarque que nous, les femmes, on s'attache effectivement trop à la religion. Plus les femmes s'attachent à la religion, plus qu'aux enseignements. Mais c'est souvent nous, les femmes, qui ont beaucoup de problèmes, plus que les hommes. Quand tu vois quelque part, les gens s'ensemblent pour prier ou pour faire quelque chose, il y a toujours plus de femmes. Et c'est toujours encore plus de femmes qui ont toujours de problèmes. Elles n'arrivent jamais à résoudre leurs problèmes. Et comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer un peu ça?
Plus les femmes s'attachent à la religion, plus elles ont de problèmes. C'est normal. Ça, là, normalement, ne devait pas inquiéter les femmes. Vous savez, comme je le disais tantôt, la femme est de sexe faible. La femme s'adonne souvent au groupe, à la masse, mais la foi de la femme est plus solide que la foi des hommes. Et les hommes, sachant que les femmes sont de sexe inférieur, cherchant toujours à impacter la masse, étant dans l'incapacité d'impacter la masse masculine, ça donne aux femmes, les entraîne dans le décor. Et c'est ça ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises. C'est ça ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises. Parce que la femme, naturellement, comme je dis, elle est suivie. Elle ne raisonne pas comme les hommes. La femme obéit plus à la loi, les règles préétablies. Mais pourquoi? La femme ne réfléchit pas trop. Là, les autres, ayant découvert que la femme est de sexe faible, et c'est pourquoi même dans nos églises, il y en a tellement, les amassent, leur donnent de faux enseignements, parce qu'ils n'étant pas aussi capables de raisonner, aussi capables de comprendre, aussi capables de voir quelle est la réalité et qu'est-ce que la parole dit, c'est ça. Et même aujourd'hui, ces faux enseignements et les fausses doctrines là font qu'aujourd'hui les femmes prennent même la parole de Dieu à l'envers. Et je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Et il y en a qui te diront aujourd'hui, la femme n'a pas le droit à la parole dans l'assemblée. Ce n'est pas ainsi que Paul a parlé. La femme, bien qu'étant suivie, est un sexe du genre, quand vous mettez la femme, vous donnez une responsabilité à la femme, vous donnez de l'autorité à la femme, elle passe à côté. Quand vous donnez de l'autorité à la femme, parce que la femme est une véritable bavarde, qui ne contrôle rien, qui n'analyse rien, sème le désordre dans les assemblées. Et c'est pourquoi Paul va dire, si la femme, je suis sûr que lorsqu'on va chercher le mot grec qu'ils ont expliqué par la femme n'a pas le droit à la parole, c'est sûr que la femme n'a pas le droit à l'autorité dans l'assemblée, c'est sûr. Parce que parfois, vous allez voir, les versions bibliques que nous avons n'expliquent pas les choses de la même manière. Lorsqu'on dit, Dieu demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, Armandier. On dit, Dieu dit, je vais suivre ma parole pour l'accomplir. Quelqu'un ne peut pas comprendre en même temps ce que ça voudrait dire. Mais le mot grec dit, Dieu demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, Shaoukad. Et Dieu dit, je Shaoukad. C'est la similitude entre les mots, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu utilise souvent la connaissance que vous avez des choses, des mots, des phrases, de certaines réalités du monde pour vous parler. Il n'utilise que ce qu'on sait pour nous parler. Et j'expliquais par exemple à un frère la dernière fois que j'ai eu une révélation. Et dans la révélation, il est écrit « Godomé ». Et lorsque j'ai fini la révélation, je pouvais toutefois dire « Dieu m'a révélé quelque chose par rapport au marché de Godomé ». Mais Dieu me disait tout simplement « Dododeme wenosa godero topa ». Lorsque j'ai commencé par prier, Seigneur, révèle-moi, je n'ai pas compris. Parce que c'est pourquoi on dit, quand on dit demander, on vous donnera. Cherchez, le chercher, c'est pas courir partout qui est cherché. Non. Cherchez le sens de ce que Dieu vous révèle. Cherchez à le connaître. Cherchez à lui obéir. Lorsque vous cherchez, vous faites des efforts, vous frappez, il ne peut que vous ouvrir. Mais nous ne savons pas le chercher. Et parce que les femmes, à court, ne réfléchissent pas, l'enseignement qu'on leur donne, qui devait être pratiqué à leur vie, elles n'arrivent pas à pratiquer ces enseignements par rapport à leur vie, mais pratiquent ces enseignements par rapport à la masse. Donc pour elles, l'obéissance est dans les assemblées, et ce qu'on dit là-bas, c'est purement spirituel, et à la maison, c'est toute une autre vie. C'est ça qui explique ça. Et l'autre chose aussi, c'est ce qu'on avait dit avant. Les séminaires se ressemblent un peu. Je dis, lorsque la femme ne reviendra pas au commencement, à l'Éden, la femme ne peut qu'avoir des difficultés. Parce que le monde nous a tellement menti. Le monde nous dit que la femme doit être émancipée, la femme doit travailler, la femme doit aider son mari. Et c'est vraiment dommage que tout à l'heure, j'ai vu deux jeunes qui m'ont pris tout le temps, c'est pourquoi je suis venue en retard, qui soutenaient ça. Et je leur ai dit, Dieu n'a pas créé la femme pour aller dans l'administration, mais ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas aller à l'école. Non, on a enseigné. La femme doit aller à l'école, atteindre un certain niveau et mettre sa connaissance au service de sa famille. Parce qu'éduquer des enfants, il faut avoir au moins une certaine capacité. Et lorsque la femme va à l'école, atteint un certain niveau, apprenant certaines choses, peut maintenant mettre ça au service de son mari et de sa famille. Mais aujourd'hui, les femmes veulent aller dehors. Parce que le monde nous a tellement menti. On nous a dit émancipation, émancipation, promotion du genre.
et tout le monde court. Et résultat, c'est qu'on sacrifie, comme je l'ai dit dans l'autre séminaire, on sacrifie nos foyers pour 100 000, pour 150 000, pour les vrais gradés, 200 000, ou parfois 25 000 francs. On sacrifie son foyer. Dites-moi combien de femmes ont déjà travaillé dans une entreprise dans la Bible. Je veux savoir si ce n'est pas dans l'entreprise maison. L'entreprise maison a besoin d'une directrice et non d'un directeur. Et c'est pourquoi le fond le lit si bien. Et pourquoi les femmes veulent devenir aujourd'hui des nyonou glegbenou? Vous cherchez quoi dans le glé? Oui. Pourquoi cherchez-vous à ressembler aux hommes? Donc ça voudrait dire que Dieu est imparfait pour créer les femmes telles qu'elles sont, les hommes tels qu'ils sont. Tant et aussi longtemps que nous allons chercher femmes à ressembler aux hommes, ça ne marchera jamais. Oui. L'obéissance à quoi? C'est là la question. Oui. Et qu'est-ce que la parole dit? Oui, et la parole dit quoi avant la question? Je vois là où vous voulez en venir. Oui, la parole dit quoi par rapport à la question? Oui, l'obéissance, je suis d'accord. Oui, et qu'est-ce que Dieu a, à quoi Dieu a demandé d'obéir? Oui, de oui, plusieurs, mais vous parlez de la quête de sa volonté.
Bon, ça, je vais chercher après, mais ce qui m'intéresse le plus, voilà un homme de Dieu, il faut toujours respecter l'homme de Dieu. Oui. Et on vous dit, on vous enseigne, tu sais, une femme ne doit pas se faire belle, une femme ne doit pas porter des bijoux, une femme ne fait pas faire ci, ne fait pas faire ci. Mais elle fait ça, c'est pour son bien-être, pour le bien-être de sa petite famille ou je ne sais quoi. Mais malgré tous ses efforts, malgré tout ce qu'elle fait, elle n'arrive jamais. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est chercher la face de Dieu pour avoir le discernement. Parce que moi, je vois qu'aujourd'hui, si tu n'as pas le discernement, ce n'est pas la peine de servir Dieu. Parce que si tu sais Dieu et tu es toujours dans les difficultés, tu rencontres toujours des choses que même le païen ne rencontre pas, c'est pas la peine, quoi. Je veux en savoir plus.
Là, je n'ai pas encore bien compris, mais ce que je perçois, c'est quoi? Nous devons, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Un homme de Dieu peut-il dire à quelqu'un aujourd'hui de ne pas se faire belle? Aidez-moi à répondre. C'est écrit où? Oui, le discernement, nous devons l'avoir. Mais il y a une seule chose qui peut nous départager, c'est la Bible. Ne rien ajouter, ne rien retrancher. Mais nous devons aussi avoir la tête, le cerveau pour comprendre. Parce que l'intelligence, Dieu l'a créée, nous devons l'avoir. Et on a dit que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Donc ça voudrait dire que nous sommes des hommes aussi intelligents. Et nous devons faire preuve d'intelligence. On est d'accord. Lorsque quelqu'un te dit, la femme ne doit pas se faire belle. La femme ne doit pas se parer. Je suis allée dans une église pour donner un séminaire. Parfois même moi, je crée la question. Quand je vais dans des églises et que je regarde des gens à qui je parle, je crée la question parce que ça dépend de comment je veux m'habiller. Aujourd'hui, beaucoup vont dire qu'ils m'ont jamais vu souvent attacher la tête. Mais il m'a plu aujourd'hui d'attacher la tête. Et quand je vais dans l'église, je crée ce qui peut susciter la question. Le lendemain, je pars sans foulard. Le troisième jour, je pars en pantalon parce que je sais qu'ils diront quelque chose. Et souvent, quand je crée, la question vient et je l'explique. Je pense que par rapport à la parure, Dieu n'a jamais dit, ne mettez pas, ne vous parez pas. Il dit, la parure, les parures intérieures valent mieux que les parures extérieures. Et lorsque vous regardez aujourd'hui dans nos églises, les femmes, ça donne à cela. Elle est venue aujourd'hui, habillée comme ça, avec son foulard, c'est très beau. Elle est en jupe. Bon, les deux ne se saluent pas souvent. Le dimanche, lorsqu'elle va revenir, il faut forcément qu'elle cherche à porter quelque chose du genre, à mettre un truc du genre, peut-être pour montrer qu'elle est plus svelte que l'autre, pour montrer peut-être qu'elle est plus jeune. C'est ce genre de choses. Et ça nous prend tellement de temps que ce que Dieu nous demande de faire, nous laissons, nous passons à côté. Il dit que si ce n'est que ça là qu'on veut faire, autant ne pas se parer et se parer de bonnes œuvres. Est-ce à dire que cette personne qui parle comme ça dit ne portez plus? Non. Et si la parole même nous dit que Dieu, lui, ne regarde pas l'apparence, tu es belle ou tu es vilain ou tu es né ou tu es lancé ou tu es court, c'est pas le problème de Dieu, c'est le cœur. Il regarde au cœur, le cœur qui agit. Tu n'as rien à foutre de ça. Et dans la Bible, on a dit qu'une femme ne porte pas les vêtements d'homme. Qu'est-ce que vous appelez vêtements d'homme? Le pantalon? Le pantalon, c'est le vêtement d'homme? Jésus a-t-il jamais porté de pantalon, selon même dans l'histoire, ce qu'on nous révèle? Il a toujours mis une tunique. Et cette tunique est semblable à la robe des femmes. Vrai ou faux? Mais c'est où les vêtements d'hommes? Est-ce que dans la création, on dit Dieu créa les vêtements d'hommes, il créa les vêtements de femmes? Ce que vous ne savez pas, regardez, vous avez porté une chemise. Dites-moi à quel côté, de quel côté est votre bouton. Dites-moi. Il ne faut pas regarder à le côté sur lequel vous l'avez fermé. Mais votre bouton est où? À droite? À droite? Mm-mm. Jamais. Regardez bien. Déboutonnez-vous et regardez. Monsieur, votre bouton est où? Déboutonnez-vous et regardez. À moins que ce soit une erreur. Normalement, quand vous regardez bien, les hommes, leur boutonnière est souvent à droite et leur bouton à gauche. Oui, ce que je dis, je sais de quoi je parle. C'est une étude que j'ai faite. Et quand vous regardez les femmes, leur boutonnière est à gauche et leur bouton est à droite. Et quand vous regardez les chemises des femmes, il y a des pinces par rapport à la femme. Quand vous prenez les pantalons de femmes, vous avez des fermetures. Ah, bien sûr. Quand vous voulez acheter des pantalons, surtout les femmes, et même s'il y a des boutons, c'est différent. Là où l'homme a 4 boutons, la femme a 3 ou 2. Oui, j'ai menti. Les femmes qui portent. Tu n'as rien à cirer de notre physique. Lui, c'est le cœur, il veut. Bien sûr. Et quand vous regardez les pantalons des femmes, les poches ne sont jamais les mêmes. Et ce n'est pas taillé de la même façon. Encore que Christ ne l'a jamais porté. Oui. En conclusion, qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a pas de vêtements d'hommes, il n'y a pas de vêtements de femmes. C'est nous-mêmes qui avons choisi de porter des vêtements. Maintenant, si tel que vous êtes assis là, vous vous mettez en jupe, qu'est-ce que les gens vont vous dire? Vous êtes déjà allé en Martinique? Vous êtes déjà allé en Martinique? Mais c'est le style. Donc vous allez dire qu'ils ont porté des vêtements de femmes? C'est comme ça qu'ils s'habillent. Les Vénusiens. Voilà, les Vénusiens. Ils mettent des jupes. Mais qui vous a dit que c'est des jupes de femmes? Donc laissons les folklores et allons à l'essentiel. Que personne ne nous trompe. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous éclairer en toutes choses. C'est la tête, c'est l'intelligence. Vous savez cette histoire-là, rapidement, avant d'aller à comment? Une étude de cas. Ma mère qui est une grande chrétienne. Et c'est elle que Christ a utilisée pour m'amener dans la foi. Et j'avoue qu'elle était restée dans cette doctrine à ne jamais se parer, jamais mettre de pantalon, jamais, jamais. Elle devait aller voir ses enfants aux États-Unis, quitter, passer par la France. Et j'ai demandé à mes frères, faites tout pour qu'elle voyage en décembre. Tout pour qu'elle voyage en décembre. Et effectivement, elle a voyagé en décembre, elle est partie. Surtout que, bon, elle était restée tout le temps là-bas avant de venir. Elle fait escale en France, en décembre. Ça coulait à flot, la neige. Et je vous dis, je ne sais même pas comment elle s'est débrouillée pour se trouver un jean, très, très rapidement, avec des chemises et une veste. Très, très rapidement. Et là, mon frère m'appelle et me dit, ah non, la vieille, je t'ai dit, le froid l'a cirée. Je dis, prends sa photo. Elle ne savait pas. Elle est venue, j'ai pris la photo. Et je l'ai fait rasseoir. Je dis, maman, qu'est-ce que tu as porté? Ça, j'amène ça à ton pasteur. Pourquoi est-ce que tu dois porter le pantalon? Il y a aussi la différence des climats. C'est pourquoi Dieu dit, ne regarde pas l'apparence. Il n'a rien à cirer. Tu portes pantalon pourvu que tu sois décent. Et la femme soit décente dans ce qu'elle porte. Là, oui. La pudeur, oui. Mais ce n'est pas dans ça là que Dieu est. Et ce n'est pas dans ça là qu'on dit qu'on n'obéit pas à un pasteur. Toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si tu comprends, il n'a qu'à rester là, dit tout ce qu'il veut, il n'a qu'à prier. Quand il aura fini, il va se faire. Je ne vous demande pas de vous rebeller contre vos pasteurs, mais la réalité est là. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous éclairer dans vos lectures. Et c'est tout. Donc la femme, là, elle est inquiète parce qu'elle est déboussolée, parce qu'elle ne reçoit pas ce qui doit vivifier son esprit. Non. Et Paul va nous dire qu'une femme couvre la tête devant les anges, machin, et tout jusqu'à la fin. Mais ce que les gens oublient, à la fin, il dit, mais sa chevelure ne lui sert-elle pas de voile? Comment vous comprenez ça? Ça voudrait simplement dire que la femme n'a pas le droit de se faire couper les cheveux, avoir la tête d'un homme. Et un homme ne peut pas ressembler à une femme avec des dreads. Oui, et quand on dit l'homme ne peut pas venir devant son Seigneur avec un chapeau, l'homme doit avoir la tête rase. Ne doit pas venir avec des longs, des dreads sur la tête, des je ne sais quoi attachés, long. Oui, le chapeau, ce n'est pas seulement physique. Cet esprit éclaire nous. Mais non, Dieu aime trop les paraboles. Quand vous lisez souvent le livre des Proverbes, vous devez comprendre que Dieu, il parle. C'est à toi de décoder. C'est pourquoi il dit, il se révèle à ceux qui le cherchent. Quand tu as quelque chose que tu ne comprends pas dans la parole, tu lui demandes et tu le cherches. Il va se révéler à toi. Maintenant, comment être une femme selon le cœur de Dieu? C'est bon? Oui, exactement. Exactement. Oui, je sais ce que vous voulez dire par là. Parce que les Juifs ont l'habitude de mettre leur voile. Je suis entièrement d'accord. Mais en même temps, c'est des femmes qui ont de longs cheveux. Moi-même, je me suis déjà posé la question. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire par là? Mais c'est vrai qu'il y a la culture. C'est pourquoi tout simplement la parole biblique qui dit, Dieu ne regarde pas aux apparences, mais regarde au cœur à tout régler. Donc, qu'on ne s'attarde pas là. pour rien du tout. Ça a tout réglé. C'est le cœur que Dieu cherche. Oui. Et je dis aux gens, que voulez-vous d'un chrétien ou d'une chrétienne? La tête est toujours voilée, des boucles, mais qui passe à côté de l'essentiel et dont la finalité est de l'autre côté, l'enfer. Et une chrétienne qui se part, mais qui a le cœur que Dieu désire et que sa finalité est de l'autre côté. Oui, il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit nous aide déjà à comprendre, aide les chrétiens à comprendre aujourd'hui que l'évangile qu'on nous avait annoncé avant, on nous a dit abandonne tout, ça crée aussi un problème dans l'église aujourd'hui. Abandonnez tout, suivez Dieu. Dieu a dit, ceux qui abandonnent tout et qui me suivent, je leur donnerai tout et au centuple. Et vous voyez des gens qui travaillent, qui ont appris un métier, qui abandonnent leur métier et viennent se cacher dans l'église. Et ça développe la paresse. La paresse, la finalité, vous voyez des mères de famille, des pères de famille qui deviennent des mendiants. Donne-moi, je veux nourrir ma femme. Donne-moi, je veux envoyer mes enfants à l'école. Donne-moi, je veux prendre Zim. Donne-moi, je veux manger. Et on n'a pas encore compris que le temps de cet évangile, de cet évangile est déjà dépassé, de très loin. Oui, je pense qu'on va arrêter ainsi, sinon on risque de ne pas... Oui, elle va mourir de faim. Elle va attendre les dîmes et elle va mourir de faim. Oui, mais attention aussi, attention. La grande question, le grand piège, qui doit-on suivre entre le pasteur et Dieu? Oui, mais l'erreur est qu'aujourd'hui, et c'est ça la faiblesse des femmes, c'est le pasteur. J'ai connu un homme de Dieu, même si ce n'est pas lui qui le disait, parce qu'il faisait, il fait aujourd'hui tout le contraire et que Dieu l'aide, qui souvent dit, ce n'est pas le pasteur. Quand tu es malade, tu viens le voir, prie pour moi, il dit, je ne sais pas prier, je ne peux pas prier pour toi, développe ton alliance avec Dieu. Chaque fois, il dit ça. J'ai dit, mais comment un homme de Dieu, on vient vers toi, prie pour moi, tu dis de développer l'alliance avec Dieu. Ça veut dire quoi? Il dit, oui, je ne suis pas Dieu. Développez votre alliance avec Dieu. Moi, je sais ce que je dois dire à Dieu par rapport à vos vies. Parce que attention, nous les induisons en erreur et ils nous induisent aussi en erreur. Parce que c'est un homme après tout. Lorsque il commence par faire quelque chose, le Saint-Esprit travaille par lui. Et vous lui rappelez chaque fois qu'il est fort. Il se dit c'est le Saint-Esprit. Chaque fois que vous lui rappelez, il est fort. Un juif va s'arrêter, se regarder et là, il tombe. On l'aide à tomber dans l'enseignement. Et au finish, on dit, oh, il était bon avant, hein, mais maintenant, c'est nous. Moi, je pense que la grande question aujourd'hui, c'est de se demander, en tant que chrétien, j'obéis à qui? À Dieu ou à l'homme de Dieu? Et c'est ça qui a fait que j'ai dit un jour à un homme de Dieu, je vous aime bien, vous êtes mon père spirituel, mais permettez-moi, nous sommes arrivés au carrefour de Lot. Prenez votre chemin, je prends mon chemin, mais je vous aime. Ah oui, Dieu a dit à Abraham, débarrasse-toi de Lot. Lot, qu'est-ce que ça voudrait dire? Les voiles. Débarrasse-toi de Lot. Et je suis parti. Mais ce n'est pas la guerre. On s'entend. Mais je préfère déplaire à un homme pour plaire à Dieu que de déplaire à Dieu, au nom de Dieu, pour plaire à un homme qui est mortel comme moi. Ça, c'est le piège. Mais attention, il ne faudrait pas dire que j'ai demandé de développer la rébellion contre les pasteurs. Mais nous devons le faire tout en obéissant à Dieu, en marchant selon ce que Dieu nous demande de faire. Parce que Dieu dit, respectez les autorités que j'ai établies sur vous. Après tout, c'est des autorités. Et il y a un cas que nous allons voir demain dans les pourquoi. Lorsque Mariam ou Myriam, je ne sais plus trop, la sœur de Moïse a murmuré, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a frappée de lèpre. Nous devons faire la part des choses. Ne pas les critiquer. Au contraire, prier pour eux. Et nous ramassons nos effets, nous partons. Et Dieu n'est pas dans les édifices de pierre. Et ce n'est pas la religion. Dieu n'a jamais travaillé avec la masse. Il a toujours travaillé avec une personne. Il a travaillé avec Abraham. Il a travaillé avec Moïse. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Lorsque Élie a fini, c'est là où il a dit, Josué, prends le relève. Élisée est parti, bien que Élie est parti, bien qu'Élisée veut l'onction, même la double portion de l'onction de Élie, mais il a fallu que Élie meure. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne travaille pas avec la masse. Même quand il y a la masse, il parle à une personne qui dirige la masse. Donc, moi, je n'ai rien à foutre de cela. Et c'est pourquoi vous allez voir que souvent dans nos églises, il y a des gens qui sont dans la foi, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais quelqu'un vient à la foi. Je me rappelle, j'ai une histoire, et puis, l'église dans laquelle je suis, quelqu'un me dit, moi, je suis ici depuis 18 ans avec lui, 20 ans avec cet homme de Dieu. Dieu n'a jamais rien fait comme ça pour moi. Et toi, tu viens à peine maintenant, on va parler de 5 ans, de 7, tu vas dire que Dieu a fait ça, aucun Dieu n'agit comme ça. Je dis, c'est la preuve que c'est Dieu. Il faut que les enfants de Dieu s'élèvent contre moi d'abord. C'est la preuve que Dieu est dedans. Ce que je fais sans persécution, ça, l'issue, la voie est grande, mais l'issue, c'est la mort. Mais je veux commencer dans la difficulté. C'est la preuve que Dieu est là. Et la réponse que je lui ai donnée, je dis, c'est la fin de toute chose qui va nous donner raison. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces gens-là ont déjà compris. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses, ne pas se laisser tromper. Et pour ne pas se laisser tromper, développer l'alliance avec le Saint-Esprit. Lorsque Jésus retournait au Père, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai mon Esprit Saint, qui sera votre guide, le révélateur, l'Esprit de force, qui va... Beaucoup de choses, tout. Et quand on parle de paraclétos, ça veut dire côte à côte. Et c'est pourquoi on dit aujourd'hui le paraclet. Les gens disent paraclet, paraclet, sans savoir ce que ça veut dire. Paraclétos, c'est côte à côte. Il est côte à côte, on est là, le Saint-Esprit est là. Parle-lui. Et tout cela demande au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne pourra réagir qu'au temps convenu. Il a envoyé son esprit, c'est là. Arrêtons d'être des tirailleurs, mais soyons des tireurs d'élite. Allons au but. Comment être une femme selon le cœur de Dieu? Étude de cas de Anne. Vous connaissez Anne? Vous connaissez Anne? Vous entendez parler. Anne, c'est la mère de... De qui? Chant des yeux. De Samuel. L'étude de cas se fera sur plusieurs cas. Anne, pour montrer comment est-ce que une femme qui vit dans une famille polygamique peut être une femme selon le cœur de Dieu. Et si on a beaucoup de temps quand on va finir d'étudier Anne, ses forces et ses faiblesses, on va aussi utiliser le cas de Ruth. Même s'il n'y a pas quelqu'un dans ce cas, ce n'est pas grave. Ça pourrait toujours aider d'autres personnes. Ruth, comment est-ce qu'une veuve peut cultiver les qualités de plaire à Dieu? Et on va étudier aussi le cas de la reine Esther. Ses forces et ses faiblesses. Voilà. Pour étudier le cas d'Anne, on va dans le livre de Samuel, 1 Samuel. Je vais chercher... Bon, vous allez m'excuser parce que c'est ceux qui vont à l'école biblique là. C'est eux qui ont les versets en tête et ils apprennent. Ils ont tous les versets dans leur tête. C'est pas ça, hein, pasteur. C'est pas que je dis que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais 1 Samuel, c'est bon? Je vais lire rapidement, rapidement. Et comme ça, ensemble, on va essayer de voir ses forces et ses faiblesses. Quelqu'un peut aller plus vite que moi et se propose de lire rapidement? Oui, chapitre 1, verset, je crois 16 ou 18, non? On commence par le premier verset, très très rapidement.
Rama, Taï, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tobou. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Eli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme et tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Eli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le soir, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Eli observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que murmurer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Eli pensa qu'elle était ivre et lui dit, et il lui dit, « Jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non. « Non, Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revint dans leur maison à Rama.
Merci. On a tous entendu, hein? C'est bon? Selon vous, tout ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est quoi les forces? Ou bien on va commencer d'abord par ses faiblesses. C'est quoi les faiblesses d'Anne? Premier point. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme faiblesse? Tout ça l'amenait dans quel état d'esprit? En fait, elle n'a pas bu. C'est pourquoi elle a répondu, je n'ai pris ni vin. Ça l'amène à avoir des comportements d'ivresse. Donc, on peut dire, dans les faiblesses, la faiblesse. Bon, trouvons d'autres noms à cela. Cœur indisponible. Et tout ça l'amène dans la souffrance. Quoi d'autre? Y a-t-il encore quelque chose à ajouter? Non? Au fur et à mesure, ça va venir. C'est ça, non? Voilà, les forces. Exactement. La foi. La persévérance. Oui. La patience, oui. Précision dans la prière, oui. Ça, c'est très subtil, hein? On ne remarque pas la précision dans sa prière. Elle a dit, un enfant mal. Patience. Et quoi d'autre? Tempérance, oui. Parce qu'elle ne réagissait pas par rapport à sa co-épouse. Promesse, oui. Bon, pas la promesse, mais je dirais plutôt la confiance en Dieu. C'est l'espérance, exactement. Et quoi d'autre? La fierté. Bon, est-ce qu'elle était fière de ce qu'elle est? Non. Du fait de ne pas avoir d'enfant? Non. Quoi d'autre? Oui, soutien de son mari, le respect à l'homme de Dieu. Oui, on avait dit quoi? Soutien de son mari, hein? Oui, c'est bon? Là, moi je pense qu'on va d'abord faire les études de cas, que quelqu'un prenne le livre d'Esther. Ah, pardon. Avant d'aller à Esther, je pense qu'on doit apprendre le cas de Pénina, d'abord. Parce qu'avant de tirer une conclusion, il faut le pour et le contre. Pénina, la coépouse d'Anne. À l'opposé, c'est quoi les faiblesses de Pénina, la coépouse d'Anne? Oui, la méchanceté. Bon, est-ce qu'on peut parler de jalousie là? Non. Et quoi d'autre? Manque d'amour. Ça, on appelle ça cœur de pied. Quoi d'autre? C'est bon. Alors, lorsqu'on regarde les faiblesses d'Anne, à côté des faiblesses de Pénina, qu'est-ce qui domine? Oui, c'est les faiblesses de Pénina. Lorsque nous regardons les forces d'Anne comparées aux faiblesses de Pénina, qu'est-ce qui domine? Les forces d'Anne. Anne a plus de forces. Et si nous devons tirer une conclusion par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut toutefois dire que la crainte de l'Éternel, la foi en l'Éternel, l'espérance et tout ce que nous avons cité ici, sa finalité nous donne plus d'avantages. Lorsqu'on va parler par rapport à l'obéissance, tout ça, c'est déjà dans l'obéissance. Puisque Dieu nous dit, dans les difficultés, il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il faut persévérer. Il faut avoir la foi. Si vous avez une foi semblable au grain de Sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ou toi de là, jette-toi dans la mer et il sera ainsi. Et partout dans la Bible, Dieu dit, priez, priez sans cesse. C'est la prière sans obéissance qui n'est rien. Mais la prière faite dans l'obéissance nous donne le résultat qu'on attend. Donc en conclusion, on peut dire, lorsque nous sommes obéissants, l'obéissance donne tout. On peut tirer cette conclusion. L'obéissance nous donne tout. Et l'obéissance nous amène à la finalité que nous recherchons et qui est forcément bien et conforme à la volonté de Dieu. Parce que si ce n'était pas conforme à la volonté de Dieu, elle ne peut pas avoir son enfant. Parce qu'elle a obéi, Dieu lui a donné son enfant. On n'a pas évolué, sinon il y a d'autres forces encore. On dit, après ça, Elkana connut sa femme, et elle eut un fils, qu'on appelle Samuel. Mais dans les forces, c'est qu'après, Anne s'est souvenue de ce qu'elle a promis à l'Éternel. Elle a dit, si tu me donnes un fils mâle, le rasoir ne passera point sur sa tête et il sera entièrement dédié à l'Éternel. La promesse, ce que le pasteur disait tout à l'heure. Et lorsqu'elle a fait sa promesse à Dieu, en conclusion, Dieu dit, si tu m'obéis, tu auras. Si tu marches ici, tu auras. Dieu conditionne toujours les bénédictions. Et quant à l'homme aussi, lorsque nous promettons souvent, et ça arrive souvent dans nos églises, hein, on dit, Seigneur, donne-moi un emploi, je te donnerai les dîmes. Quand c'est 100 000, la dîme là, c'est rapide. Mais quand c'est 1 million, mais quand c'est 10 millions, ah non, hein, moi je ne peux pas donner ma dîme au pasteur. On commence à regarder l'homme et non Dieu. Et nous ne respectons plus nos promesses, nos engagements vis-à-vis de Dieu. Elle, après tout cela, lorsqu'elle a eu son fils, elle a honoré sa promesse. Mais la faute de beaucoup de gens aujourd'hui, surtout les femmes, n'arrivent jamais à honorer leurs promesses. Parce que nous bavardons beaucoup et ne sommes pas en esprit. Si tu es en esprit et que tu as la crainte de l'Éternel, tu ne peux qu'obéir. Parce que tu n'as rien reçu qui ne t'a été donné par lui. Pourquoi est-ce qu'on regarde la finalité? Celui qui veut utiliser, ah, moi je vais lui donner maintenant ma dîme de 100 millions, il va porter des cravates, il va acheter une belle voiture. Oui, on se condamne soi-même. Donc ça voudrait dire que c'est à un homme que nous donnons et non à Dieu. Lorsque l'homme de Dieu à qui tu donnes, tu honores ton engagement vis-à-vis de Dieu en donnant, s'il fait mal, il a des comptes à régler avec Dieu, c'est pas avec toi. Et tu continues ton chemin. Parce que l'autre chose qu'elle t'a parlé tout à l'heure, elle a dit, oui, nous devons respecter les hommes de Dieu, oui. Et nous devons tout faire avec les hommes de Dieu pour ne pas avoir des ennuis. Parce que lorsqu'un homme de Dieu se lève, il parle, Dieu agit. Après, Dieu peut régler des comptes avec lui. Dieu, lui, il n'est pas un homme. Quand il dit, il fait. Quand il établit des lois, il respecte. Et c'est pourquoi, parce qu'il a dit, si quelqu'un pêche, c'est la mort. Il a été obligé d'envoyer son fils à la croix, qu'il le veuille ou non. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Il fallait que quelqu'un meure. Et parce que c'est déjà écrit, cela devait s'accomplir. Et on a dit, malheur à celui par qui le malheur est arrivé. Donc ça devrait arriver. Mais malheur à celui par qui c'est arrivé. En conclusion, on dira qu'elle a honoré sa promesse. Mais on peut aussi tirer la conclusion comme quoi, lorsque vous cultivez plus la crainte de Dieu que cela, vous êtes forcément au-dessus. Et spirituellement, vous êtes amené à marcher plus dans la volonté de Dieu qu'humainement. Ça voudrait simplement dire que vous comptez sur la force de Dieu. Donc, sur lui uniquement. Et nous devons savoir l'autre conclusion, que nous devons savoir les faiblesses des autres pendant les difficultés sont obligatoires. Parce que s'il n'y avait pas les faiblesses de Péniel, de Pénina, elle ne peut jamais tirer cette conclusion. Elle sera à l'aise dans son domaine. Bon, elle n'a jamais de co-épouse. Personne ne va la mortifier. Bon, elle n'ira pas à la face de Dieu. Donc, nous devons savoir que dans nos activités, dans nos foyers, dans nos vies, nous devons avoir des Pénina. Nous devons avoir des Pénina et c'est essentiel. C'est les Pénina qui nous poussent vers Dieu, qui nous amènent à persévérer, qui nous amènent à se dire ce n'est pas fini, il faut que tu agisses, Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu doit forcément nous amener dans les épreuves. Pourquoi j'ai choisi Anne? Je disais tout à l'heure que comment être une femme selon le cœur de Dieu, lorsque tu plairas à Dieu, ce qui est sûr dans ton foyer, tu plairas à tout le monde, tu plairas à ton mari. Dans tes affaires, tu vas plaire à ton patron et à ceux qui t'entourent. Parce que ta vie ne peut que porter des fruits. Et ici, on peut dire que la force d'Anne, c'est qu'il a manifesté les fruits de l'amour et de l'esprit. Il y a ça, il y a ça et d'autres choses. Elle a manifesté les fruits de l'esprit et de l'amour. Si c'est ce que nous faisons souvent aujourd'hui, Marco épousait qui pour me mortifier. Caille, on la bat correctement. Les disputes à ne point finir. Mais on dit chaque fois qu'elle faisait ça, Anne était sans réponse à ses provocations. Parce qu'elle savait si elle avait de réponse aux provocations de Pénina, Dieu ne peut rien faire. La désobéissance du petit lapin entraîne la décadence totale. Vous savez ce que ça veut dire? Les lapins, quand ils vont dans la brousse, ils sont alignés, ils font un petit rang. Mais ils sont tellement bêtes, les petits lapins, agités, que si jamais le petit lapin qui est devant déraille, tout le reste ne regarde plus. Prou, 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 prou. Oui, la désobéissance du petit lapin entraîne la décadence totale. Et c'est comme les grenouilles. Quand vous entendez un crapaud la nuit, quelques instants après, qu'est-ce qu'on entend? Il ne sait même pas pourquoi le crapaud a dit gros. Et les autres aussi répondent en même temps dans les autres bas-fonds. Oui, mais c'est ça. Donc, on peut dire que lorsque vous manifestez les fruits de l'esprit, le résultat ne peut être que positif. Et j'ai choisi ce cas, comme je le disais tantôt au début, par rapport aux femmes chrétiennes qui vivent dans des familles polygames. Regardez dedans vos forces. Et sachez que les Pénina sont là pour qu'il y ait une différence entre Anne et Pénina qui donnera un résultat qui est gloire à Dieu, qu'on appelle gloire à Dieu. Et nous allons prendre maintenant le cas de... On va prendre rapidement Esther. Si on a encore du temps, on prendra Ruth. Mais si on n'a pas du temps... Oui, on a un peu de temps, hein. On vient à peine de commencer. Esther, le livre d'Esther. On y va. Esther, c'est l'exemple que j'ai choisi pour les jeunes. Esther, c'est l'exemple que j'ai choisi pour les jeunes. Oui, parce que nous attendons toujours le mariage, entrer dans le foyer, tant, la jeune chrétienne dans le monde, la jeune chrétienne dans les affaires, la jeune chrétienne au milieu des sœurs et des frères. Arrêtez de rêver, hein. Frère. Si quelqu'un te dit encore frère, c'est que quand la nuit, je dormais et puis je priais là, j'ai rêvé, je t'ai vu. Dis-lui non, je ne peux pas être la cause de tes cauchemars. Je ne suis pas un mauvais esprit. Il faut leur refuser ça. Et puis toi, femme, quand un homme va te dire, oui, si c'est quand j'ai rêvé la nuit, là, c'est toi que j'ai vu. Ah, c'est rien. Alors, Esther, on va très rapidement. Premier livre d'Esther, premier chapitre. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à tous ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs de province furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondamment de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, c'est pourquoi d'ailleurs Dieu va dire, ne vous enivrez point. Il ordonna à Méman, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Karsas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Sheta, Admata, Tarsis, Mires, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyait la face du roi et qui occupait le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exercé ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Memucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vashti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princes de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrit parmi les lois des Perses et des Médès, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donna la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlera la langue de son peuple. Là, nous allons parler des faiblesses de Vassili. Oui, on y va. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a qu'une seule femme ici. Et parfois deux. Parce que, et trois même. Bon, le roi Assuérus est un roi, un grand roi qui avait plusieurs provinces qui sont des départements de son royaume et tout. Il est marié, il a une femme qu'on appelle la reine Vassili, qui était très très belle. On dit belle de figure. Si même la Bible dit belle de figure, il faut imaginer. Beauté là, il y avait. Vrai. Et maintenant, le roi a organisé un festin. Un festin qui a duré, je crois, 180 jours. Et après, pour tous les responsables de son royaume. Et on peut même, la leçon qui est là même, on peut déjà dire que c'est une façon de concertation avant d'aller à la guerre. Pas forcément la guerre. Avant d'entreprendre quelque chose, vous devez vous concerter avec les responsables de vos départements. Si c'est du commerce, vous devez savoir ceux avec qui, les fournisseurs. Vous devez avoir une réunion avec les têtes de votre équipe pour définir les stratégies. Entre parenthèses. Quand il a fini, il a fait aussi un festin pour tous ceux qui sont dans le royaume. Donc, c'était pour eux une première dans l'histoire que n'importe qui se lève pour aller dans le royaume manger et boire. Et il y avait du bon vin. Parce que le roi était libéral. Et tout le monde venait, buvait comme vous voulez. C'est la fête pendant plusieurs jours. Et ce jour-là, le roi, il a pris du vin et son cœur fut réjoui. Il a dit, « Ennumwe djemeni, degbe degbe, legbe legbe. » Maintenant, il dit, « Bon, j'ai une belle femme. Allez me chercher la reine. Que tout le monde dans le royaume puisse contempler sa beauté. » Et il a ordonné à cet eunuque, c'est-à-dire, comment on peut les appeler, les gardes-corps, si on peut le dire ainsi, d'aller chercher la reine qui devait faire sa fierté. Et quand on est allé rendre le message du roi à la reine, puisque la reine aussi a organisé une fête pour les femmes. Donc les hommes n'étaient pas mêlés avec les femmes n'étaient pas mêlées avec les hommes. Les femmes étaient à part avec le festin et la reine, les hommes étaient à part avec le roi et le festin. Donc quand on a rapporté à la reine s'est dit certainement, bon, on n'a pas dit ça dans la Bible, mais certainement la reine a compris que son mari était ivre et a dit, je ne viens pas. Elle n'a pas obéi. Quel que soit l'état du roi, elle devait obéir, mais elle n'a pas obéi, elle n'est pas allée. Alors là, le roi a demandé aux princes et aux autres eunuques qui connaissaient le droit du royaume, qu'est-ce qu'on peut faire à cette femme-là? Et ils ont dit, il y a un qui a pris la parole pour dire, si jamais on laisse cet acte impuni, c'est que toutes les femmes, vous avez vu, ce qu'on a dit tout à l'heure au début, c'est des suvices, c'est comme des crapauds, gros, gros. Donc si jamais on rapporte dans le royaume que la reine n'a pas obéi au roi, c'est fini, les hommes vont souffrir. Les femmes ne peuvent plus respecter leur mari. Et ça passera partout, et ça peut même rester dans l'histoire. Alors, il faut punir. On a dit, si c'est ça, on prend un décret, on annonce à tout le monde dans le royaume que c'est ce que la reine a fait, mais elle ne paraîtra plus jamais devant le roi. Ça dit qu'elle peut être dans le palais, mais elle ne sera plus la femme directe du roi. Elle va prendre sa retraite. Et on va choisir une autre fille pour le roi. Voilà l'histoire. Donc, je me suis arrêtée là d'abord. C'est elle qu'on appelait Vassili, pour qu'on puisse noter les faiblesses de cette reine-là. Et comme je le disais, la désobéissance du petit lapin entraîne la décadence totale. Faiblesse, oui. Égoïsme ou orgueil? Les deux. Égoïsme, orgueil. Et quoi d'autre? Oui, mépris. Oui, quoi d'autre? Ignorance, elle n'est pas ignorante. Non, elle n'est pas ignorante. Bon, est-ce que c'est l'ignorance? Il y a un mot beaucoup plus grand que ça, hein? C'est pas l'ignorance. Est-ce que c'est... Bon, je pense que tout ce que vous êtes en train de dire est déjà là. On peut parler aussi de déshonneur. Elle a déshonoré le roi. On peut parler de déshonneur et tout ça aussi est dedans. Non, on va pas faire gros. Oui, ben il faut que les gens remarquent, en fait, oui, elle a péché. Péché contre qui? Bon, péché. Manque d'humilité. Ah oui, il y a tout dedans. D'accord. C'est bon. Maintenant, parce qu'elle a fait ça, le roi a dit maintenant, allez me chercher des vierges belles. Dites-leur que le roi a besoin de femmes parce que la reine, oui, la reine a désobéi. Maintenant, il faut trouver quelqu'un au roi. Et là, Esther a trouvé grâce aux yeux des eunuques. On dit qu'elle était élancée, belle. On lui donne tel, on ne pourra plus lire. Mais si on ne lit pas, après vous allez voir. Mais elle, lorsqu'elle est allée, parce que le roi a demandé que ces femmes-là, ces jeunes filles vierges qu'on va choisir, qu'on s'occupe de leur toilette. Jusqu'au moment où le roi lui-même va se lever pour aller choisir parmi elles et tout et tout. Et là, parce que Esther, Dieu a permis que Esther trouve grâce, parce qu'elle est était en fait du peuple juif, je crois. Oui. Et cette race de juifs est arrivée là par Mardoché, qui a été déporté, et puis ainsi de suite, qui est son oncle, et qui travaillait d'ailleurs à la cour du roi. Donc elle est allée là-bas, on lui a donné, comme elle a trouvé grâce, on lui a donné la meilleure chambre qui existe dans le royaume pour se préparer, les bonnes personnes pour la préparer et tout. Et elle est orpheline avec son oncle. Elle vivait avec son oncle. Donc c'est son oncle qui lui a dit, voilà, voilà ce qui se passe, toi, tu dois postuler. Ben, elle est allée. Elle a postulé, au finish, elle a trouvé grâce, c'est elle qui est devenue la reine. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver comme force dedans? Bon, c'est un petit résumé, hein? On ne peut pas tout lire. Et c'est l'histoire de la reine Esther, tout le monde connaît. Donc les forces de Esther, par rapport à là-bas, on peut parler de l'obéissance. Parce qu'elle pouvait dire non à son oncle. Elle a accepté. Elle a été... Quoi d'autre? Ses forces, la virginité. Bien sûr, ce qui est rare aujourd'hui, comme les lames de chien. Ça là, aujourd'hui, toi-même quand tu es comme ça, là, les gens se moquent de toi. Tu penses que c'est toi qui es démodé. Il vaut mieux être démodé aux yeux des hommes. Et être à la mode aux yeux de Dieu. Et résultat, frustration. Comment on va faire? Quoi d'autre? Propreté. La beauté aussi. Donc, quand quelqu'un vous dit de ne pas se faire belle, il faut prendre ta Bible, mettre ça sur la tête. Sinon, un biotrouble. Quoi d'autre? C'est sûr que la reine Esther, il y a des gens quand vous les voyez le matin, la réveille le matin au lieu de sourire pour dire Seigneur merci, je suis en éveil. Jeune fille, elle n'a pas de problème comme ça. Oui, c'est ma fille. Regardez-la, c'est elle. Toujours, ma tête. Pourquoi tu regardes la porte? Toute la tête, les gens vont te regarder. Toujours, qu'est-ce que tu as fait? Ah, ça va, c'est ma tête. Maman. Moi-même, parfois, j'ai peur de lui dire bonjour. De peur qu'elle ne prenne peut-être une cuillère pour me donner un coup. Et dire, ah, il faut gagner avec Bédia. Bonne humeur. C'est Eda. Bien sûr. Et quoi d'autre? Grâce exceptionnelle. La grâce, là. Mais attention à toutes les grâces. Oui, mais attention à l'extrême des choses. Il y a des gens qui sont des extrémistes. On prend l'autre là-bas, terminé. On ne veut plus regarder ce qui est au milieu. Rien que ça. Grâce extrême, vraiment. Et quoi d'autre? Humble. L'humilité. Parce que dans la suite de l'histoire, elle a fait preuve de beaucoup d'humilité pour demander au roi ce qu'elle voulait. C'est déjà dans grâce. D'accord? Et puis elle a beaucoup de stratégie et de diplomatie aussi. Elle est intelligente. Ça, c'est la prière des chrétiens. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Alors que l'intelligence est là. On ne dit pas, Seigneur, renouvelle, on dit, donne-moi l'intelligence. Mais non, oui, donne-moi l'intelligence, il dit. Et quoi d'autre? Faiblesse. Et là aussi, il y a la prière. Pardon? Oui, elle est vertueuse, vraiment. J'aurais même ajouté, vraie stratège, hein? Parce que le fait de dire au roi, viens manger, avant que je te dise, non, demain, viens manger, ainsi de suite, c'est une vraie stratège. Oui, la sagesse, effectivement. Secrète, agent de renseignement secrète, oui. Hein? Discrète. Il fallait ajouter quelque chose à ça. Et quelque part, je ne sais pas si c'est audacieuse, je vais dire, mais, ou un autre mot, parce que quand elle s'était appuyée sur Dieu, elle s'est levée et elle est allée chez le roi. N'importe qui ne pouvait pas aller chez le roi sans demander d'audience. Mais pourtant, elle a eu la faveur du roi. Courage. Bon, on peut dire qu'elle est courageuse. Elle est courageuse. Mais ça, quelque part ici, courage. Et là, est-ce qu'elle a de faiblesse? C'est sûr, il doit y en avoir. S'il doit y en avoir, lesquelles? Pardon? Ses faiblesses sont affichées subtilement quelque part. Où elle a demandé une première fois de prier. Et le peuple ne l'a pas fait au même moment qu'elle. On peut relire. C'est la deuxième fois qu'elle a demandé à son oncle, va dire au peuple de ne ni manger ni boire, je le ferai avec vous. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Mais elle avait Mardoché en fait comme père. Oui. Ignorance dans quel sens? Or, elle ne savait pas. Effectivement. C'est vrai. À part l'ignorance... Pardon? Ça ne peut pas être une faiblesse, c'est même une force. Oui, parce qu'à un moment donné, quand Mardoché a demandé à Esther de postuler, il ne lui a pas dit pourquoi. C'est après, quand les choses ont commencé par mal tourner, que Mardoché s'est fâché à dire à Esther, tu es allée là-bas pour délivrer ton peuple. Or, elle était dans l'ignorance de cela. Elle, dans sa tête, ce n'était pas qu'elle est allée là-bas pour délivrer son peuple, mais elle est allée pour être reine, pour être reine. Elle est dans l'ignorance du but pour lequel... Elle est allée de l'autre côté. Du but pour lequel Mardoché l'a proposé est son oncle. Et c'est lui qui l'a gardé depuis la mort de son père et de sa mère. Et comme faiblesse aussi, en même temps, quand je parle d'audace, c'est une force et c'est une faiblesse. D'oser aller dans la cour du roi sans demander d'audience, déjà qu'elle sait, c'est une force et en même temps Oui, une faiblesse. Parce qu'elle sait que c'est parce que la reine Vati a désobéi qu'elle, elle est en train d'aller. Donc, les lois du royaume doivent être respectées. C'est une force et c'est une faiblesse. D'un côté et d'un autre. Ce n'est pas la sagesse. Vous allez voir, c'est la foi, on comprend comme ça. Vous allez voir que dans le livre d'Esther, du début jusqu'à la fin, à aucun endroit le nom de Dieu n'est mentionné. C'est le seul livre d'ailleurs. À aucun endroit le nom de Dieu n'est mentionné. À aucun endroit le Saint-Esprit. À aucun endroit quelque chose. Oui. Oui, prier, comment je dis, c'est pas mentionné ne veut pas dire que ce n'est pas la finalité. Moi, je pense plutôt que le livre d'Esther est surtout pour nous montrer que les moments pendant lesquels nous pensons que Dieu n'agit pas, il est à l'œuvre. Donc, cela, parce que il n'y a pas eu un début de processus spirituel, de foi basée sur Dieu, on peut dire que là, son audace est une faiblesse et en même temps une force. Pardon? La témérité, oui. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est parce que la reine Vati n'a pas obéi qu'on a dit une autre personne vienne. Donc, elle n'avait pas droit à l'erreur. Elle n'avait pas le droit de faire ce que le roi a dit, ce n'est pas bon. Donc là, c'est ici et c'est là. Parce que si elle va là, et qu'entre-temps le roi ne lui tendait pas la pêche, et que ce n'était peut-être pas le temps de Dieu. Oui. Et on ne nous a pas dit que dans sa prière, elle était convaincue que... On n'a pas dit ça. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais si chacun doit apprendre la façon dont il comprend tel verset ou tel verset, on ne finira jamais. Parce que pourquoi j'insiste ici, c'est que souvent, ça nous arrive. Et Dieu nous lâche dans les difficultés. Et les pleurs commencent. Il y a souvent des instants dans nos difficultés, on se dit par la foi, c'est par la foi, on n'a pas mal agi. C'est par la foi. Et on devance Dieu. Parce que lui, il est le Dieu qui n'arrive jamais trop tôt, jamais trop tard, mais au temps juste. Il te dit encore un pas en arrière. Ce n'est pas le moment. C'est le mauvais moment. Où tu le fais? Il te dit un pas en arrière, tu ne veux pas parce que tu as déjà avancé. Tu te dis, c'est la foi. Il dit, en arrière, tu dis non. Il te laisse. Et là, les problèmes commencent. Dieu, mais pourquoi tu agis comme ça? Oh Dieu, mais pourquoi? Mais c'est le temps. Dieu, par exemple, dans le cas pratique que nous sommes en train de traiter, peut destiner un homme à une femme. L'homme est destiné à cette femme. Mais dans notre vie quotidienne de tous les jours, on se dit, bon, nous allons un peu l'aider. Et tu dis, par exemple, tu programmes le jour de ton mariage. Alors que Dieu attend que ce dernier soit professionnellement assis d'abord, parce que s'il est professionnellement assis, peut-être qu'il va t'éviter le fait de passer dans la maison paternelle, dans la maison familiale. À peine on a lancé le recrutement, on dit oui, vous êtes embauché, et le lendemain matin, il programme son mariage. C'est Dieu. Le troisième jour, Dieu se dit, mais j'avais encore des choses à faire, nom de Dieu. Les problèmes commencent. Dispute. Vous le croisez avec une autre femme, il vous dit quelque chose que vous n'aimez pas. Vous vous dites, bon, pour l'instant, bon, on ne va pas divorcer, hein, mais bon, retourne chez ton papa, moi je vais rester chez moi d'abord. Vous voyez des couples comme ça, ils sont pleins. Après, bon, on peut se remettre encore ensemble. Mais pourquoi vouloir aider Dieu? Jusqu'au moment où Dieu finit son processus, on dit, bon, ils se sont réconciliés. Oui, parfois nous dévançons Dieu. Et quand on le dévance, jamais, tu n'iras nulle part. Tu es là, lui finit d'abord. S'il fait, il est Dieu, il ne fait pas, il est Dieu. Vous n'avez jamais vu quelqu'un faire un coup d'état pour Dieu? Il va se promener partout. Il va le voir où? Mais il est Dieu, souverain. Et il connaît le temps de toutes choses. Il connaît nos besoins. Mais pourquoi ne pas demander quel est ton temps? Quel est le bon endroit? Quelle est la bonne chose? Nous voulons faire un commerce. Dieu dit oui, c'est bon. C'est ça que tu dois faire. Tu as prié, tu es en alliance avec le Saint-Esprit, il te révèle, il dit c'est telle chose. Et maintenant Dieu dit attends un peu. Je vais susciter quelqu'un qui viendra peut-être de l'extérieur dans 3 mois. Que tu vas peut-être rencontrer sur ton chemin vers le marché, qui va te dire, j'ai tel stock de l'autre côté que je veux vendre ici. Tu vas me représenter ma société ici. Mais toi, tu trouves que c'est trop long. Le lendemain matin, tu vas à Padme. Mais il y a encore un Tu vas finir de bouffer. Et tu vas retourner à la maison parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Ça, tu vas penser que c'est la foi. Mais non. On a souvent ce problème-là. De prendre des décisions, on se dit, c'est la foi. Mais on ne demande pas à Dieu, oui, c'est la foi. Mais quelle est ton heure? Mais quand? On ne lui demande pas. Beaucoup font ce genre d'erreur. Dieu t'appelle à un ministère. Par exemple, le ministère de quoi? D'évangélisation. Dieu t'appelle à quelque chose, à prophétiser, à faire telle chose. Et tu es convaincu, le Saint-Esprit te convainc que cela, c'est ton ministère. Mais Dieu, il veut simplement, parce que tu as déjà vu ton ministère, de te retirer, d'aller le rencontrer sur la montagne. Et il te dira, prends telle voie. Procède comme ça, fais telle chose, voici ça, je t'explique telle, c'est comme ça, c'est ci, c'est ça. Tu refuses d'aller prendre les instructions chez Dieu, le lendemain matin, tu crées une église. Et de surcroît, tu deviens pasteur au lieu de prophète. Et tu vas où? Nulle part. pas plus loin que le bout de ton nez et de ta gorge parce que tu vas crier fatigué. Personne ne viendra. Tu n'es pas sous l'onction. Pourquoi tu veux le dépasser? Il y a un temps pour tout. Et pour la petite histoire, je vais vous dire, quand j'étais entrée dans la foi, il y a de cela bientôt plus de 15 ans, hein, 18 ans, parce que moi je dis tout ça là, ce n'est pas sur Dieu. Là, j'étais en balade à l'église. Si je suis rentrée dans une vraie alliance avec Dieu, il n'y a que 5 ans. Oui, parce qu'avant là, balade, promenade. Et c'est ça qu'on appelle en forme d'obiba, bien sûr. Et je me rappelle, quand on est rentré dans la foi par l'église apostolique, qui était l'une des premières églises au Bénin, première église évangéliste au Bénin, j'avais un peu comme le don, j'avais le don de prophétie. Et j'avoue qu'étant enfant, je ne sais pas comment cela arrivait. Et parfois, quand je vois les choses, je refuse toujours de les dire. Parce que je me dis, bon, est-ce que ce n'est pas un rêve? Est-ce que je ne suis pas en train de divaguer? Est-ce que je ne suis pas en train de raconter des cours? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne maîtrise pas. Mais le don était là. Jusqu'à un jour où on était dans l'assemblée et j'étais là, hein, les yeux ouverts. J'ai eu une révélation. J'ai vu la voiture de mon père qui avait fait un accident très grave. Et lui-même, il était un peu touché et tout. Et quand je l'ai vu, et au moment où je recevais la vision, il n'était pas là. Il était en voyage, il est allé au village. Et quand j'ai vu, c'est comme si quelque chose me dit, mais dis ! Et j'ai été en prière, on avait fait, je crois, 3 jours de jeûne. Il y avait les grandes personnes, les aînés. J'ai dit, mais comment j'ai dit ça ? Dis ! Je n'arrivais pas à dire. Dis ! Je n'arrivais pas à dire. Et dans l'église apostolique jusqu'à aujourd'hui, il y a ce que nous appelons « Allez, héros, agloyez-y. Ainsi parle l'Éternel. » Les prophètes, pour parler, disaient « Ainsi parle l'Éternel » et donnaient leur révélation. Et je ne sais pas quelle force m'avait pris. Et j'ai dit « Ainsi parle l'Éternel ». Et j'ai dit ce que j'avais vu. J'étais quasiment en transe. Bon, ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu vient souvent en transe. J'étais quasiment en transe. J'ai dit « On est allé chez nous à la maison. L'église n'était pas très loin de la maison. » Et ils sont allés là-bas, ils ont prié tout le temps, des heures et des heures. On est parti. Donc pour moi, après, quand j'ai fini de recevoir la révélation, je me suis dit, je ne croyais pas. C'est vrai que c'était plus fort que moi, je n'arrivais pas à expliquer, je ne croyais pas. Et les heures qui ont suivi, juste après la prière, mon père appelle, il venait de faire un accident. Mais Dieu merci, il n'a pas été touché. Et la voiture était irrécupérable. Donc si je n'avais pas, si l'esprit ne m'avait pas poussé à dire, j'allais garder pour moi. Donc ça suffisait pour que d'autres personnes disent, ah oui, ben je suis prophète. Je l'ai laissé comme ça. Et plus tard on dit, quand quelqu'un est colérique, l'esprit de Dieu part. Et j'avoue que j'étais, aujourd'hui je ne le suis plus par la grâce de Dieu, et je vais encore améliorer plus que ça. Quand je m'énervais, je tremble de la tête jusqu'aux pieds. Je sais ce que ça veut dire. Donc, je n'avais plus de révélation ainsi de suite. Jusqu'au moment où, après, quand j'ai grandi, je suis vraiment entrée en alliance avec Dieu, j'ai commencé par avoir des révélations. Mais jusque-là, parfois, Dieu me révélait des choses. Le Saint-Esprit me dit certaines choses. Je trouvais ça trop banal. Et je me rappelle, il y a quelqu'un qui était sur un lit d'hôpital. Je devais aller prier pour la personne. Et je lui ai dit, je ne peux pas aller prier, il va mourir. Parce qu'il a fait telle chose. Mais les gens n'ont pas cru. Le lendemain, la prière était programmée pour 17 heures. Mais il était déjà parti. Donc, je trouvais ça trop banal. Mais qui moi je suis? Pourquoi tu me révèles des choses comme ça? C'est pas que je ne crois pas, mais je ne comprenais pas. Donc, je ne savais pas que c'était un don que je devais développer. Parce que l'heure de Dieu n'a pas encore sonné pour que je puisse développer ça. Jusqu'à il y a à peine 3 ou 4 mois, le Seigneur m'a révélé certaines choses. Et comme ça, il a organisé les temps et les circonstances pour que les choses s'accomplissent. Et là, il m'a dit, si tu veux savoir ton ministère, si tu veux savoir ce que tu dois faire pour moi, c'est la prophétie. Je te donnerai de la prophétie pour les gens. Et parfois, je leur donnerai, mais je te donnerai l'explication. Et parfois, je veux que tu édifies telle personne par telle ou telle. Et des choses que je trouve tellement banales, parfois, que je reçois comme ça en révélation, il suffit de dire à la personne que la personne te dise, ah, ça c'est vrai. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu travaille. Et parce que c'est l'heure de Dieu, il faut rapidement entrer sous l'onction, sinon l'onction va partir. Mais si entre-temps, j'avais voulu agir, c'est-à-dire aider Dieu pour aller dans mon ministère, je suis sûr que ça va créer des dégâts. Certainement. Donc, il y a des choses que Dieu a des plans pour nous, mais il faut attendre le temps juste pour entrer dedans. Et ne pas perdre de vue tout ça. Nous voulons le mariage. C'est pourquoi j'ai pris le cas d'Esther pour la jeunesse. Nous voulons ça. Mais nous refusons d'obéir à Dieu. Dieu qui est le pourvoyeur de tout. C'est lui qui sait tout. Il est omnipotent, omniscient. Il sait tout. Et tant qu'on ne va pas lui obéir, tant qu'on ne va pas manifester aussi, ici, il y a beaucoup de fruits de l'esprit. Tant qu'on ne va pas faire ça, et on refuse de faire ça, et qu'on attend la finalité, on n'aura jamais la finalité. Pour être une femme selon le cœur de Dieu, c'est obéir. Vivre dans l'obéissance. Vivre dans la sanctification, ce qui est aussi difficile aujourd'hui. Parce que si vous ne perdez rien pour Dieu, il ne vous donnera rien. Vous ne sacrifiez rien pour lui. Vous ne payez pas le prix de quelque chose. Et vous attendez, fatawaya. Enfin, on dit, tofino kubo biavo, ako roda ya. Roda ya ba, kouan biavo si. Awada ya, bouja bio. Fi a mode, a montoin. Oui, dans nos vies, c'est ça. Le mariage, oui. Un foyer heureux, oui. Un foyer qui impacte, oui. Mais pas sans obéissance. Et tout cela, déjà, ça rentre. L'obéissance, ça rentre déjà dans le pourquoi. Nous devons obéir à Dieu, on ira plus loin demain. Quand on va finir avec l'étude du cas de Ruth. C'est presque le même schéma parce que Ruth, c'est une femme qui a épousé son mari. Son mari l'a épousé comme tout le monde. Elles étaient deux. Ils sont allés dans une autre ville avec la belle-mère. Arrivé là-bas, le mari, il meurt. Mais Ruth est demeurée, est restée dans l'obéissance à sa belle-mère Naomi. Sachant bien que Naomi n'avait plus d'autres enfants qui pouvaient épouser Ruth. Mais elle a suivi. Elle a respecté ce qu'aujourd'hui nous n'avons plus. Et les femmes disent, il y en a que tu rencontres qui disent, mon mari est décédé, je n'ai plus d'enfants, mes enfants sont décédés. Et à la mort de mon mari, les gens m'ont renvoyé de la maison. J'ai bien envie de leur dire, ben, disons-nous la vérité. Quel était ton comportement? Comment est-ce que tu les traitais du vivant de ton mari? Quels étaient les liens entre la famille et toi? Ce que tu dois faire en tant que femme, chrétienne ou non, il y a des valeurs à cultiver. Et quand on ne cultive pas ces valeurs, on ne demeure pas dans l'obéissance à Dieu, avec la parole de Dieu, l'aide de la parole et du Saint-Esprit pour rester dans le plan de Dieu, la finalité est moche. La preuve, la coépouse de Ruth, elle est partie. Quand Naomi a dit, allez dans la maison de vos mères, l'autre est partie. Mais Ruth dit, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. J'irai là où tu iras. Ton Dieu sera mon Dieu. Bien qu'elle adorait des dieux étrangers. Là où tu iras, j'irai. Et Ruth a suivi Naomi chez elle. Et c'est en obéissant que Naomi a dû lui donner la stratégie à suivre, les secrets pour pouvoir gagner un mari 1000 fois meilleur que le fils de Naomi. Et Naomi a fini par avoir un fils, celui-là qui est devenu le père de David. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance à quoi? La femme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas celle-là qui sait simplement s'habiller. La femme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas seulement celle-là qui est spirituelle parce que nous aimons trop ça. Ce n'est pas seulement la femme qui sait parler en langue. Non. Hein? Encore que je ne veux pas pécher contre l'esprit. Oui. La femme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas celle-là qui est là dans l'église ou quelque part dans l'assemblée qui ne peut pas manifester les fruits. Jésus a dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Quel est ton fruit? Dispute, haine, méchanceté. Au lieu d'avoir, je dis plutôt les forces des femmes qui ont réussi, nous développons les faiblesses des autres. Et nous attendons d'avoir le résultat que ceux qui ont vécu dans l'amour, dans la crainte de Dieu, on veut avoir leur résultat. Où? La femme selon le cœur de Dieu, c'est celle-là qui sert Dieu. Et c'est quelque part, Paul va dire dans Corinthiens, il dit, je ne vous défends pas de vous marier. Il a dit ça dans Corinthiens, je ne vous défends pas de vous marier, mais sachez que une vierge s'occupe plus des affaires de Dieu, tandis qu'une femme fait tout pour plaire à son mari. Donc ça voudrait dire que pendant qu'on est encore jeune, pendant qu'on est encore vierge, pendant qu'on n'a pas encore de charge familiale, on n'est pas encore entré dans la famille, servons Dieu. Et servir Dieu, il y a tellement de bénédictions dedans. Il y a trop de bénédictions dedans. Mais les gens pensent qu'aujourd'hui, et la jeunesse, le monde nous a tellement menti, l'église nous a tellement menti qu'aujourd'hui, nous jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la dépravation, qui ne comprennent pas. Ils ont tellement envie d'obéir, mais ils ne peuvent pas. Jésus dit, faites-les asseoir, donnez-les à manger. Ils ont dit, mais on n'a rien. Laisse-les partir, maître, on n'a rien. Il dit, qu'est-ce que vous avez? 2 pains, 3 poissons. Il a multiplié, les gens ont mangé. Mais aujourd'hui, faites-les asseoir est semblable à quoi? Dans l'église aujourd'hui, l'église veut s'occuper, encore que c'est mal fait, de la vie spirituelle des gens, et se dit que leur vie professionnelle, leur foyer ne les concerne pas. Mais ils attendent des dîmes. C'est impossible. L'église doit être aujourd'hui l'endroit où on nourrit les gens spirituellement, physiquement et même professionnellement. L'église doit être un pourvoyeur d'emploi. Parce que l'église n'est plus un pourvoyeur d'emploi, il n'y a rien que des mendiants dans l'église. Et c'est pourquoi les mendiants sont toujours à la porte des églises et des mosquées. Parce que c'est l'endroit où on les aide à mendier. Et non à leur donner à manger spirituellement pour grandir. Parce que quelque part, l'erreur que les hommes de Dieu font, je ne les critique pas. Mais l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils veulent toujours avoir des bébés spirituels qui ne changeront jamais. Que d'avoir des enfants qui grandissent, comme on le dit en fond, et donc, à tout glaisir en sous, à non-ton et non-ton, non-non. Oui. Savoir que lorsque vous semez dans la Bible dit que c'est au père d'amasser pour les enfants. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les pères. C'est les pères qui doivent amasser et donner aux enfants. Quand les enfants vont finir, là, ils vont grandir, ils doivent maintenant amasser pour donner au père. Et ce n'est qu'après ça, quand Paul a amassé pour eux, qu'après il a dit, n'ai-je pas le droit de récolter ce que j'ai semé? Mais vous ne semez rien, vous attendez la récolte. Non, je ne les critique pas, mais c'est la vérité. Et l'église aujourd'hui célèbre des mariages, c'est-à-dire d'arrangements. Arrangements. Tu n'as pas trouvé, lui il est bon. Toi tu n'as pas trouvé, elle est bon. Et on ne nourrit personne. Et parce que l'église ne les nourrit pas, ils sont obligés d'avoir double vie devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils développent l'hypocrisie. Il n'y a plus l'amour du travail. Lorsque vous prenez aujourd'hui la louange dans l'église, c'est devenu autre chose. Parce que normalement, si c'est que l'église avait un programme d'enseigner la musique, un programme d'avoir une école où ces musiciens peuvent enseigner et ce que les gens vont payer pour être formés soit partagé avec les musiciens, ils ne joueront plus pour de l'argent. Quand vous les voyez jouer, ils disent l'argent, bonjour. Mais ce n'est pas Dieu. Après, quand ils finissent là, ceux qui chantent, oh, vous pensez que c'est Dieu. Non. Mais moi, je dis, disons-nous la vérité. Ils sont en train de dire, merci pour mes 5 000, merci pour mes 10 000. C'est ça qu'ils chantent. Parce que l'église n'est plus à sa place. À l'heure du culte, l'interprète est à Porto Novo. Le pasteur dit, je vais te sanctionner. Tu dis sanction, le gars, il s'en va. Il n'a pas ton temps. Parce qu'il doit manger, il doit donner à manger à sa femme. Qu'est-ce que l'église a déjà fait pour ça? L'église a tellement de talents qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut construire une église, il y a plein de maçons dans l'église, mais on s'en va donner l'argent aux païens de venir construire pour nous. On les apprend à être des paresseux. Oui, il y a plein de femmes dans l'église qui sont commerçantes, couturières, coiffeuses, mais la plupart, jamais dans l'église, aucune femme ne va chez l'autre chrétienne. Parce qu'on n'a pas développé l'amour. On ne leur a pas enseigné ce que c'est que l'amour. On ne leur a pas enseigné la force que nous devons avoir en tant que chrétiens ensemble, unis. La seule chose qu'on nous a appris, le papatoya, oui, la haine, la pagaille, la désobéissance et des enfants rebelles. Non, non. L'église doit se réveiller aujourd'hui et apprendre aux uns et aux autres à être selon le cœur de Dieu, homme comme femme. Et nous cherchons la gloire. C'est le pasteur qui a fait. Qu'est-ce qui te concerne avec la gloire? La gloire, c'est pour Dieu. Viens chercher ta gloire. Moi, je ne veux même pas porter ça. Pas où je vais garder la gloire de Dieu. Elle est très immense. Elle est très immense. Aujourd'hui, il y a des démarcheurs dans l'église. L'église cherche une parcelle. Il sort de là. Il laisse le chrétien là. Il va chercher des démarcheurs ailleurs. Finalité, on escroque le pasteur. Très bien fait. Oui. Lorsque nous les appelons, ils viennent. Les autres sont là. Bon, encore que je ne vous critique pas, je vous aime trop, pasteur, mais c'est la vérité que je dis, je n'indesse personne, je ne critique pas, c'est des critiques constructives. Dimanche, le gars est là. Il quitte Porte Nouveau, il vient à Cotonou. Il vient jouer. Il vient interpréter pendant des heures. Il est venu nettoyer la salle. Encore que pour nettoyer l'église, il y a plein de femmes dans l'église qui vendent des produits d'entretien. Que lorsque l'église se lèvera, au lieu d'aller acheter dehors ou d'aller demander pour construire, on va demander de l'argent partout. Pour aller construire le temple de mon père. Ça, c'est impossible. Dieu peut envoyer quelqu'un quelque part pour avoir telle chose. Mais qu'as-tu? Rien. On fait des appels de fonds pour bâtir le temple de Dieu. Et qu'est-ce que David va dire? Qu'est-ce que Salomon va dire? Je ne donnerai rien à mon Dieu qui ne m'ait coûté quelque chose. Des appels de fonds. Le gars, il finit. La dîme est là. C'est là. Puis on lui dit, bon, que Dieu te bénisse. Hein? Bon, à dimanche. Ce n'est pas qu'ils vont attendre l'argent. Mais lorsque vous allez vous occuper d'eux, ils ne peuvent plus avoir l'amour de l'argent. L'hypocrisie partira. Mais la jeunesse aussi doit savoir que ce que je dis là, c'est pas l'extrême des deux. La jeunesse aussi doit savoir que lorsque Dieu vous bénit pour quelque chose, c'est plus que les bénédictions d'un homme. Ça, c'est clair. Il y a un chant de l'Éternel qui me dit, j'ai souffert, j'ai travaillé, les gens ne m'ont rien donné. Tous ceux qui viennent dans l'église achètent des voitures aux différents pasteurs. Mais moi, on ne donne rien. Mais un jour, il parlait, un jour, c'est quelqu'un qui est venu quelque part de loin et m'a dit, ah, Ce que les gens font ici, ce n'est pas normal. Prends la voiture. Je dis, donc tu penses que c'est ta tête qui lui a plu. C'est Dieu qui a regardé ton cœur et qui lui a demandé de venir te bénir. Parce que si c'est les gens de ton église qui devaient te bénir, ils vont en parler dans les journaux, partout. Et toi-même, là, un jour, tu vas te lever et déposer parce qu'il va te rappeler ça. Ah oui, mais lorsque Dieu bénit, il bénit pour toujours. Et ces bénédictions n'ont pas de limite. Et pour avoir ces bénédictions, c'est d'apprendre comment lui plaire. Et lorsque tu apprends comment lui plaire, tu pratiques et tu sais pourquoi tu le fais, tu ne peux qu'avoir des bénédictions et des finalités meilleures. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et s'il y a des questions, on va prendre et continuer demain. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, c'est la vérité. Pourquoi tout le monde est calme comme ça? C'est quoi? C'est la vérité. Ou bien, c'est ça. Pourquoi vous êtes calme? C'est aller où? C'est aller où? Mais c'est ça. On s'occupe du spirituel. Nous sommes tellement spirituels, spirituels, spirituels. Finalité, double vie dans l'église. Une face à l'église, une autre face dehors. Et parce qu'on dit souvent aux femmes, parce que nous sommes nombreuses dans les églises, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc nous aussi on suit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Le résultat, on dit, Dieu a dit de ne jamais divorcer. Je ne vous demande pas d'aller divorcer, hein, pour ceux qui sont mariés. Mais, lorsque la parole de Dieu dit qu'un homme ne délie pas ce que Dieu a lié, vous pensez que si Dieu, l'éternel Dieu que moi je sais là, s'il lit quelque chose, un homme peut délier. Si la chose est déliée, ça vient de lui. Pourquoi on nous ment? Ah oui, on ne doit pas divorcer. Je ne vous demande pas d'aller divorcer, hein. Mais il y a certaines choses que Dieu fait. Parce que si Dieu permet certaines choses, son cachet n'est pas dessus. Le sceau de Dieu que je sais, si c'est sur quelque chose, c'est scellé, puis c'est scellé. C'est clair. Oui. Non, je n'ai pas dit de dire à une femme de divorcer. Et je ne dis pas de dire à un homme de divorcer. Même si c'est une relation, révélation divine et que tu ne le dis pas, si tu ne demandes pas à Dieu la sagesse de le dire, Dieu te réclamera le sang de la personne. Et c'est le genre de révélation que moi je dis souvent aux gens. Je ne sais pas comment je vais te démontrer. C'est un peu le cas de mon mari. Il y a certaines choses. Il dit, démontre-moi, explique-moi. Parce que lui, il aime qu'on lui démontre. Et moi, je ne sais pas démontrer. Je suis littéraire. Oui. Et je lui dis, je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Hein. Mais vraiment, c'est ça. C'est ce que l'Esprit me dit. C'est la conviction que j'ai reçue de Dieu. Je ne sais pas, je ne peux pas te démontrer, mais c'est ça. Mais tu as entendu. Et j'avoue que ça, là, ce n'est pas forcément par rapport au divorce. Quand je disais, la personne est décédée, celui pour qui je devais aller prier, quand j'ai reçu la révélation, et la révélation, c'était quoi? Dieu me dit, il a contribué d'une façon ou d'une autre à la mort de certaines personnes. Je ne sais pas comment. Mais qui pouvait se lever et dire, il doit se confesser. Dieu dit, il doit se confesser, il doit le dire. Il a ça sur le cœur. Il faut qu'il dise avant de mourir. Mais je ne pouvais pas. Moi, je ne peux pas. Et celui qui m'a demandé d'aller prier pour la personne, je lui ai dit, voilà, voilà, voilà. Il dit, bon, oui, tu sais, c'est vrai, cette personne avait travaillé au ministère de l'Intérieur. Donc, quand il y a des évacuations sanitaires, c'est lui qui payait les trucs. En tout cas, beaucoup de choses, ou bien le ministère de Santé, je ne sais plus trop quoi. Donc, peut-être qu'il n'a pas... On avait essayé de voir un peu, mais le lendemain, personne n'a pu dire au vieux, c'est telle chose que Dieu nous a dit, il faut le faire. Personne. Mais à l'heure, quand j'ai appris sa mort, j'avoue que je me suis repenti devant Dieu. Et je continue toujours de le faire. Et j'ai eu beaucoup de cas comme ça où Dieu me dit certaines choses. Je dis, ah, comment je vais me lever pour dire ça à la personne? Un jour, je dis, j'ai reçu une révélation. Et dans la révélation, c'est que je suis allée chez quelqu'un qui était la maison voisine. Et je n'ai jamais mis pied dans la maison. Et Dieu m'avait révélé certaines choses sur les enfants de la maison que je leur dis. Et bien après, quand j'ai commencé à parler dans la maison, Dieu m'a révélé. Je suis allée dans la maison. Et quand je suis rentrée dans leur arrière-cour, il y avait un grand arbre. Et je suis allée là-bas, m'asseoir au pied de l'arbre, parce que c'est leur cou. Et j'ai vu un hibou qui était tombé sur l'arbre. Et en même temps, j'ai levé ma main et j'ai commencé par prier. Et je dis, tu ne partiras pas tant que tu ne t'es révélé. Je veux voir ton identité. Qui, l'esprit de qui est dedans? Et j'ai prié avec insistance et j'ai fini par voir que c'est la marâtre de celle chez qui je suis venue. Et je l'ai vue. Le lendemain, je trouvais ça trop. Ça dit, j'ai même oublié. Je me suis dit, bon, c'est quelque chose. Et je suis allée chez mon tailleur qui était juste à côté parce que j'ai déjà quitté la maison voisine, chez mon tailleur. Et j'ai vu la fille. Et quand je l'ai vue, je l'ai saluée. Elle m'a dit, ah, tu pars où? Je dis, oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et c'est en même temps le mariage de quelqu'un. Donc la personne voulait se marier le jour de mon anniversaire. Je dois y aller. Et elle m'a dit, ah, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire aussi de mon enfant. Je dis, comment ça? Elle est née le même jour que moi. Elle a dit, non, c'était hier, mais je voulais fêter aujourd'hui. Et je veux que tu viennes. Comme ça, avec tes enfants, on va fêter ensemble. Je dis d'accord. Et on parlait, je suis rentrée dans la maison. Jusque-là, je ne me suis même pas encore rappelée de la révélation. Je suis rentrée dans la maison. Et elle m'a dit, mais tu sais quoi? Même le jour de son anniversaire, hier, on a fait 2 semaines à l'hôpital. Et chaque fois, pendant la semaine de son anniversaire, elle frôle la mort. Et quand elle m'a parlé, l'esprit de Dieu me dit, prie pour l'enfant. J'ai dit, je vais prier pour l'enfant. Elle dit, un instant. Donc, je suis allée m'asseoir au pied de l'arbre. Jusque-là, je n'ai pas encore fait le lien. Dieu, il faut avoir peur de Dieu. Tout le temps. Ça dit, il faut lui obéir. Ah, et dit où? Je suis allée m'asseoir au pied de l'arbre. Et elle-même, elle avait les assiettes, ils ont sorti l'oignon, tout ça, pour faire la fête. Et quand elle a fini d'habiller l'enfant, elle dit à l'enfant, viens, ta tante va prier pour toi. Pourquoi? Parce que l'enfant est du même village, son père est du même village que moi et tout. J'ai imposé la main à l'enfant. J'ai prié. Et j'ai prié en disant, l'esprit qui te tourmente, la maladie qui te tourmente, je l'ôte de ta vie. C'est-à-dire, je priais avec insistance. Et c'est quand je priais, j'ai entendu, va, pour sur l'arbre. Et là, le Saint-Esprit, c'est lui. Il me dit, lève la tête. Tu te rappelles? J'ai levé la tête en plein midi, un hibou. C'est à Zogoré. En plein midi, un hibou. Lorsque je rentrais dans la maison, cette marâtre, je l'ai vue. Ils ont un petit couvent, je ne sais pas couvent de quoi. Elle était dans le couvent. Ils étaient en train de faire une cérémonie. Quand moi, je suis allée dans l'arrière-cour. Et là, j'ai commencé par prier. Mais pas prier à haute voix du folklore. Non. Je priais avec insistance. J'ordonnais. Parce que la reine est là. J'ordonnais. L'oiseau était là, cloîtré sur l'arbre. Et je priais. Et quand j'insistais comme ça, la marâtre a quitté le couvent. Elle est venue sous l'arbre. Regardez la similitude. Et quand je l'ai vue, sa fille lui dit, « Ah, maman, on a vu un hibou sur l'arbre. » Elle dit, « Hibou, vous connaissez hibou. Si vous voyez hibou, vous pouvez le reconnaître. » J'ai dit, « Oui, moi, si je vois un hibou, je peux le reconnaître spirituellement et physiquement. Et celui qui est dans l'hibou doit savoir que je l'ai vu. » Même Sora. Quand j'ai dit ça, elle est rentrée dans la cuisine, elle n'est plus sortie. Et je suis repartie. Donc, il y a des révélations. Et après, j'ai eu d'autres révélations que j'ai dit à la fille. Tant que tu ne sortiras pas, Dieu me dit, tant que tu ne sortiras pas de la maison de ton père, ta marâtre là, c'est ça. Et tu n'as pas la capacité d'aller contre elle. Parce que tu n'as pas encore une foi solide. Elle a dit ça à sa jeune soeur. La jeune soeur allait dire à la marâtre, ma grande soeur a dit que, maman Nelly a dit que, tu es une sorcière. Et ils ont fait, oui! Je l'ai assumé parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, oui, dis-le, je ne veux pas avoir des problèmes après. Ils ont tenu une réunion. Et pendant la réunion, j'étais à Ouaga. Pendant la réunion, la fille m'a appelé. Elle m'a appelé en pleurs. Qu'est-ce que tu as? Elle dit, ah, ce que tu m'as dit là. J'ai dit, oui, je ne savais même pas que c'était sur écoute. J'ai dit, oui, ce que je t'ai dit, que ta marâtre est une sorcière, oui, parce que Dieu me l'a révélé. Il me l'a dit. Donc j'ai parlé dans les oreilles de tout le monde. Et là-bas, il y avait eu de problèmes. Et la marâtre dit, je dis, je viendrai et je t'affronterai. Je viendrai, je vais t'affronter. Et ce que tu peux, tu le diras. Parce que je sais que je ne suis pas en train d'aller par ma force. Parce que Dieu m'a dit, dis-le lui. Et j'ai eu d'autres révélations sur cette famille-là. Mais je l'ai assumé. Et toutes les fois que je suis allée dans le quartier, même dans la maison, elle disparaissait, elle ne pouvait pas m'affronter. Et je lui ai dit, si tu t'aimes, il vaut mieux m'oublier. Parce que si jamais tu tentes quelque chose, c'est au dépend de ta vie. Parce qu'il y a des révélations que Dieu nous donne, tu dois le dire. C'est-à-dire, c'est difficile, mais il faut avoir la conviction que Dieu te demande d'aller le dire. Parce que Dieu nous révèle certaines choses pour prier pour les gens. Dieu nous révèle certaines choses pour annoncer. Dieu nous révèle certaines choses pour qu'on les aide à éviter, à édifier les gens. Ce n'est pas toutes les révélations qu'on va dire. Donc, si quelque chose arrive, on ne peut que donner gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que les hommes veulent juger? Dieu a dit de ne jamais divorcer. Je ne dis pas d'aller divorcer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas de se lever pour dire, ah, à moins chose, tu as dit de divorcer. Non. Mais on met les gens là, des frustrations, des problèmes, au finish, leur vie n'a plus de sens. Et là, ils deviennent des pierres d'achoppement pour les autres parce que c'est des chrétiens. Et Dieu ne prend jamais quelqu'un à témoin avant d'agir ou avant d'entamer quelque chose avec quelqu'un. Comment? C'est ça. Parce que les fondements ne sont pas posés. Les bases ne sont pas posées. On a peur de dire la vérité. Et toutes les fois, quand je dis aux gens, les femmes n'ont pas leur place au bureau, les gens disent, quoi? Oui, au service, ce que nous avons fait, au service de l'entreprise famille. Maintenant, si tu as un homme un peu comme moi, tu peux l'aider parce que là, quand 18h sonne, tu es libre. Ton patron, c'est ton mari, c'est ton patron. Où est le problème? Tu l'aides. Mais quand tu es ailleurs, tu prends mon salaire. Et j'ai dit, j'ai besoin de toi jusqu'à 22h. Toi, tu m'as dit que ton mari, quoi? Je prends une autre personne. La femme n'a pas sa place là-bas. C'est pourquoi il y a tant de chômage. Elles ont pris votre place, les hommes. C'est pourquoi il y a trop de chômage. Bien sûr. Parce que quand la femme est au bureau, l'homme est au bureau, le soir qui va raconter sa journée à qui? Les deux sont stressés. À moins de choses, pan. Moi, je fais l'expérience. Les moments où je suis très, très, très occupée à faire certaines choses, je trouve souvent que je suis plus stressée, plus irritée. Encore que si je le fais pour d'autres personnes et que cette pression-là est là. Oui, qui va prier pour qui? C'est ça. Et puis le soir, il y a problème. Je dis, quand vous vous aimez, il y a encore un peu d'amour. Vous commencez par vous coucher en Nice. Ça dit dos contre dos. Oui, quand il y a encore un peu d'amour, on se couche en Nice. ron. Mais quand l'amour finit là, on quitte l'étape 2 et ça devient, l'amour est en train de diminuer. Ça devient T. Et lorsque l'amour finit complètement, c'est ça. Ra, les gonds finis, théo. Oui, j'espère que s'il n'y a pas de questions, on va continuer et puis demain, on va finir. On va se tenir debout. Je vais demander au pasteur de prier pour nous. Au pasteur Martin de prier pour nous.
Nous allons prier. Béni sois-tu notre Dieu pour ta présence avec nous depuis le début de cette formation jusqu'à la fin. Merci d'avoir utilisé ta servante pour parler à ton peuple, pour parler à tes enfants. Seigneur, remplis-la davantage encore, afin qu'elle soit plus utile encore à l'Église. Seigneur, nous allons rentrer. Que ces paroles que nous venons d'entendre, Seigneur, nous aide à grandir dans notre foi, à croître dans notre marche avec toi, à devenir des femmes selon le cœur de Dieu, à devenir des hommes selon le cœur de Dieu. Seigneur, aide-nous dans ce domaine. Garde chacun de nous jusqu'à la maison. Protège chacun de nous, Seigneur, et permets que demain nous nous retrouvons encore ici pour continuer la formation. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Fouigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution